bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête.
Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient.
Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête.
Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient con.
Bonjour, tout le monde la connaît. Alors moi, la première fois que j'ai entendu cette chanson, en fait, j'étais petite fille. J'étais chez ma grand-mère, et tout le temps, on était dans la cuisine, et ça passait à la radio. Et là, ma grand-mère, elle m'a dit, oh, mais ça, c'est une chanson de Jacques Brel. Et Jacques Brel, c'est un très grand chanteur, il fait des très belles chansons. Mais ma grand-mère, elle n'aimait pas cette chanson. Alors moi, j'avais bien compris que la chanson, elle se terminait par un gros mot. C'est pour ça que je l'aimais bien, je la trouvais rigolote. Alors je me suis dit que ma grand-mère, en fait, elle devait pas aimer les gros mots. Ça devait être seulement pour ça. Moi, j'habitais à Palais. C'est un tout petit village à la campagne. Et avec mes parents, on habitait dans une maison qui était accolée à celle de ma grand-mère. Bon, en fait, c'était la maison de ma grand-mère. Enfin, les dépendances de sa grande maison. Et moi, j'aimais beaucoup ma grand-mère et j'allais souvent la voir. Mais mes parents, ils s'engueulaient souvent avec ma grand-mère. Ouais. Alors, je ne comprenais pas tout. Et puis, une fois, j'avais entendu mes parents à la maison dire « Ah non, mais on n'est pas ces domestiques !» Mes parents, en fait, ils sont sculpteurs. Et visiblement, ce n'était pas un métier important pour ma grand-mère. Pourtant, ma grand-mère, elle n'avait jamais eu de métier. Donc, je me demande si elle s'y connaissait au métier. Mais ma grand-mère, elle aurait voulu que mes parents, ils fassent tous les petits tâches de la maison, quoi, et de la propriété. Alors que mes parents, ils devaient avoir un contrat de location... Et puis il y a un loyer, et on barre, quoi. Mes parents, ils avaient failli me faire naître à Paris. Parce qu'ils habitaient à Paris, mes parents. Rue des Partants. Ils en sont partis. C'était un tout petit appartement. Et alors, ma mère, elle m'a raconté qu'en fait, il y avait une bassine, on l'a toujours à la maison, une bassine verte. Et c'est dans cette bassine verte qu'elle faisait la toilette de mon grand frère, de ma grande sœur, et qu'elle faisait aussi la terre glaise pour les sculptures. Forcément, c'était un peu compliqué. Donc, quand elle était enceinte de moi, ils ont quitté la rue des Partants. Mais moi, j'ai toujours rêvé revenir vivre à Paris. Le rêve, quoi. Alors, j'ai eu de la chance parce que ma grand-mère, elle avait aussi un appartement à Paris. Et elle avait une chambre de bonne à Paris. Et quand j'ai eu mon bac, la chambre de bonne s'est libérée. Oh, puis c'était vraiment bien parce que c'était 750 francs le loyer mensuel. Et c'était moins cher hein, que le reste du marché qui était plutôt à 1000 francs. C'était un quart de SMIC. Il faut se rendre compte, aujourd'hui, on est plutôt à trois quarts de SMIC hein, sur les chambres de bonne. Donc franchement, j'avais de la chance. Hein. Ma grand-mère, elle était gentille. Ma grand-mère, elle avait des principes. Moi, j'ai compris depuis toute petite que c'est important d'avoir des principes. Mes parents aussi, ils avaient des principes. C'était pas toujours les mêmes. Bon, un principe important de ma grand-mère, c'était l'équité. On était 22 petits-enfants dans la famille, 22 cousins-cousines. Et donc, ma grand-mère avait dit, bon, certes, il n'y a que toi qui as besoin de cette chambre de bonne. Tes cousins-cousines n'en ont pas besoin. Mais pour te protéger, que tu ne sois pas considérée comme une privilégiée, tu payes un loyer. Parce que même si tes cousins-cousines n'en ont pas besoin et n'ont pas de problème de revenus, au moins, on ne pourra pas t'accuser d'être privilégiée. Elle était gentille, ma grand-mère, elle me protégeait. Alors moi, je payais les 750 francs. Puis quand même, à un moment donné, je me suis rendu compte que ce n'était pas la valeur d'usage de ma chambre de bonne avec les chiottes sur le palier. Ma grand-mère, elle payait l'impôt sur la grande fortune et mes 750 francs lui versaient une rente. C'est quand même étonnant tout ça. Ou alors, je raconte déjà ma vie alors qu'on ne se connaît pas, je ne me suis même pas présentée à vous. Alors moi, je suis Danielle Simonet. Je suis psychologue de l'éducation nationale. On disait conseiller d'orientation psychologue, conseillère d'orientation psychologue, de profession. Mais je suis surtout conseillère de Paris. Voilà. Je suis la seule conseillère de Paris, France Insoumise. Alors c'est marrant parce que mes parents aussi, ils avaient fait un peu de politique. Dans le village, à Palais, mon père, il était membre du conseil municipal. Et puis à la fin d'un mandat, le maire ne voulait pas se représenter. Et comme personne ne voulait être candidat pour être maire, mon père s'était proposé. Mais auparavant, entre-temps, au milieu du mandat, il avait pris un engagement politique. Il était dans un parti qui était de gauche à l'époque. Je sais pas s'il y en a encore qui le connaissent parce que c'est le Parti Socialiste. Non, je vous jure, c'était un parti de gauche à l'époque. Hein. Enfin, les gens y croyaient, hein, je vous assure. Hein. Et donc à ce moment-là, quand il y a eu le dépôt des listes, donc il avait contacté tous ceux de la liste et puis d'autres pour reconstituer une liste, tout le monde était d'accord. Et puis alors il va déposer la liste. Puis le jour où il dépose la liste, ben il se rend compte qu'il y avait déjà une liste déposée avec les mêmes noms, sans lui. Ah. Oh. Alors moi, au Conseil de Paris, c'est un petit peu l'inverse. Moi, je me suis barrée de leur majorité, je suis la seule, toute seule, et je l'assume. Mais en même temps, c'est dur quand même hein, d'être toute seule comme ça au Conseil de Paris. Ils sont 163 conseillers de Paris. Et alors moi, j'essaye de relayer tout un tas de luttes sociales, écologiques, citoyennes qui se passent dans la capitale, et j'essaye de décortiquer tous les sujets, et d'essayer de relayer une parole, quoi. Bon, c'est crevant, hein, parce qu'il faut savoir, par exemple, le dernier conseil, j'ai déposé 30 vœux. Alors les vœux, c'est des textes qu'on soumet au vote du conseil, et donc je les ai rédigés avec une centaine de personnes. Des syndicalistes, des associatifs, des collectifs de citoyens, des insoumis, enfin tout un tas de gens. Bon, vous imaginez, quoi, la veille de déposer ces vœux, vous envoyez par Internet. Alors, vous êtes là, vous essayez de mettre au clair. Puis, pof, il y en a un qui vous appelle. Oui. Allô, Daniel. Vous, vous êtes dans le speed. Hein. Il faut que dans ton vœu, tu comprennes bien qu'en 2016... Oui, attends, parce que là, sur les mails, j'ai autre chose. Là, on m'explique un truc sur la commission du Vieux Paris. Alors... Écoute, Daniel. Quand le GH s'est transformé en GHT. Oui, attends. Alors, là, j'ai rien compris, là, sur les cours de musique individuelle. Oh là là. Et c'est quoi, la lutte sur le logement, là, oui. Oh là 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 là, le problème, là, le plan climat avec la hausse de loyer. Écoute, Daniel. Vous voyez le genre, hein. Il faut gérer une centaine de personnes. Et c'est pas ça. Et en même temps, c'est super important. Parce que moi, ça me rassure. Il y a plein de gens avec lesquels, bon, j'apprends plein de choses, j'ai pas toujours le même langage, mais quand même, on se comprend beaucoup plus que dans ce Conseil de Paris où j'ai l'impression que c'est la salle des enchères en permanence. Et ouais. Parce que Paris est vendu aux intérêts privés. Pour vous donner un exemple, franchement, vous avez bien vu comment la spéculation grignote tout, quoi. Comment les grandes entreprises essayent de prendre le pas sur tous nos usages de la ville, quoi. Une salle des enchères, ouais. Une chambre de bonne, là, j'ai une chambre de bonne. À 100 euros, madame, ça vous va, 100 euros par mois? Non, 200 euros, 300 euros, qui dit mieux? 400 euros, 500 euros, as-tu j'ai vendu, mon madame? Un centre commercial. Un centre commercial avec une grande zone touristique internationale. Oui, comme ça, il y aura le travail du dimanche. Et oui, on pourra travailler la nuit. Qui n'en veut? Oui, j'ai une liesse là-bas. Non, madame. Oui, vous là-bas. Allez, vous, une image, madame, que as-tu j'ai vendu? Et maintenant, oh, une fondation d'art contemporain, important à la culture. Une fondation d'art contemporain. Alors là, on a un grand patron, monsieur Pinault, qui nous fait l'honneur de vouloir créer son centre d'art contemporain. Oui, excellent. Madame, vous êtes d'accord? Oui. Alors, on va en mettre combien? Oui, parce que la ville, elle va payer quand même. Il faut remercier le patron. Hein, 20 millions? Madame, 30 millions.
50.
Non,
80 millions d'euros. Oui, LGG vendu.
Parce que quand tout sera privé, on sera privé de tout. On ne peut pas laisser la ville, ça nous appartient, dépecée par les intérêts privés. Hein? Et de la rue des partants, les classes populaires et moyennes, elles sont parties. Alors c'est quoi les prochaines élections municipales? C'est juste un concours pour savoir quels sont les meilleurs commissaires-priseurs pour gérer ses intérêts et les dépecer? Non. Alors on fait quoi?
Oh putain, ce qu'il est blême. Mon HLM, c'est la bombe du 8e. Le HLM. Oh putain, ce qu'il est blême. Le HLM, c'est la bombe du 8e.
le HLM.
Oh putain, ce qu'il est blême.
Mon HLM, et la bombe du 8ème, le HLM.
Ah, celle-là aussi, vous la connaissez, hein. Vous aimez bien Renaud?
Le Renaud
d'avant, hein. Il y a mal tourné, hein. Moi, je suis bien d'accord.
Non, non,
moi, je suis bizarre, d'accord. Oh, la salope. Oh. Ah non, mais attendez. Là, non. Elle est têtue, non? Elle est élue. Et elle se paye un logement de bailleur social. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais la salope. Ah, c'est dans le journal, hein. C'est moi, en fait.
Ouais, ouais.
Oh, lolo. Ouais, c'est moi. Faut que je vous raconte. Un jour, je quitte l'hôtel de ville et je vais aller faire du porte-à-porte à Belleville. Hôtel de ville, Belleville, vous allez voir, 5 stations. Trajet très court en métro. Et j'ai une journaliste du Parisien qui m'appelle. Faut savoir que moi, j'allais faire du porte-à-porte parce que il y avait un problème dans un bâtiment de Paris Habitat. Il y avait un petit papy, il avait un appartement totalement fissuré. Et ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas accès à sa salle de bain. Et le bailleur n'avait même pas cherché à le reloger, ni même à négocier ses charges et son loyer. Et les courriers, ça ne servait à rien. Paris Habitat faisait comme s'il ne recevait pas. Alors on avait décidé de faire un porte-à-porte et puis d'organiser une solidarité pour faire une manifestation et pour que ça change, quoi, pour ce papy. Et là, sur le trajet, j'ai donc le Parisien, mais pas la journaliste qui suit le Conseil de Paris, non, une journaliste que je ne connaissais pas. Et elle me dit, « Alors, Madame Simonet, vous êtes toujours dans votre logement social ?»« Mais je ne suis pas en logement social. »« Enfin, vous jouez sur les mots, vous êtes quand même bien dans un logement qui appartient à un bailleur social de la ville. »« Oui, enfin, c'est un loyer libre. »« Un loyer libre, ça veut dire qu'il y a zéro conventionnement, il n'y a pas de subvention ni de l'État, ni de la collectivité, rien. » Oui, enfin, quand même, vous bénéficiez quand même d'un loyer modéré par rapport au prix du marché. Oui, enfin, mon loyer permet au bailleur de se faire de l'argent et ça contribue à financer le logement social. Ah, donc vous n'avez pas l'intention de le quitter alors qu'il y a toutes ces personnes qui sont sans logement à Paris. Vous n'avez pas honte, vous trouvez pas ça immoral? Écoutez, peut-être qu'on peut aborder le problème différemment, madame. Parce que 1300 euros de loyer par mois, je ne suis pas sûre que les smicards puissent se payer, quoi. Donc il y a peut-être d'autres choses à faire, quoi. Hein. Et puis je vous assure, quoi, moi au moins, mon loyer contribue à financer le logement social et pas la spéculation immobilière. Ah, très bien, madame. C'était hyper étonnant, en fait. J'ai compris le soir même qu'elle tenait son titre. La pire excuse de l'élu insoumise pour garder son logement social, ne pas financer la spéculation immobilière. La salope. Pendant 2 semaines, je rasais les murs parce que j'avais l'impression que tous les médias ne parlaient que de ça. Tous les médias internet avaient repris. Bon, plein de gens n'avaient pas vu, hein. Mais vous êtes dans votre bulle, quoi. C'est violent. Et en fait, ce que je comprenais, c'était que pour ces journalistes, la norme, c'était le marché. C'était les prix de la spéculation immobilière. Et un élu de la République ne doit pas être dans un logement public, qu'on se le dise. Je pense que j'aurais été propriétaire de plein d'appartements et je me serais enrichi de la rente. J'aurais été béni par ce jour-là. La norme sociale. J'ai un blanc. C'est normal. Vous allez bien, vous?
Ça va.
Nickel. Ça me rappelle une histoire où c'était une situation assez différente, mais avec des points qui ressemblent, quoi. Quand j'étais donc plus jeune, là, chez mes parents, un jour, ma grand-mère dit à mes parents qu'elle va vendre la maison. Donc, sous-entendu, il faudrait que mes parents partent. Mais mes parents, en fait, ils dépensent rien. Ils avaient mis de l'argent de côté. Donc ils disent à ma grand-mère, bah, nous, peut-être qu'on pourrait essayer d'acheter la partie où on vit, quoi. Oh ! Le drame, le scandale, vous n'y pensez pas. Pour ma grand-mère, mes parents, qui qui n'était pas diplomate, ni chirurgien, ni avocat, ni je ne sais quelle grande profession, les artistes, les ratés de la famille, devenir propriétaire en partie de la maison familiale. Impossible. Du coup, ma grand-mère a fait un procès à mes parents. Ouais. Mais donc, les tantes ont fait des faux témoignages, comme quoi ils étaient venus dans un meublé, alors que c'est eux qui avaient fait tous les travaux pour que cette vieille bâtisse devienne habitable. Ils ont perdu le logement, enfin le procès. Ils étaient considérés comme squatteurs sans droit ni titre. C'est-à-dire que, pour ma grand-mère, ces losers socialement ne pouvaient pas accéder au titre de la propriété. Ah, la question du droit au logement, c'est une question, il faudra du temps pour qu'elle soit enfin prise en compte. Je ne sais pas si vous savez, mais il faut attendre 1946 pour que le droit au logement soit considéré comme un droit social. Et d'ailleurs, c'est en 1948 qu'il est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. De 48, ouais. Je pense que vous vous souvenez tous de l'appel de l'abbé Pierre de février 1954. Ouais. Mais on ne se souvient pas forcément des mots. Les amis, au secours. Une femme vient de mourir, gelée, cette nuit à 3 heures, sur le trottoir du boulevard Sébastopol, serrant sur elle le papier par lequel, avant-hier, on l'avait expulsée. Cette année, on a atteint des taux records d'expulsion locative avant la trêve hivernale. Il a fallu attendre 1982 pour qu'on ait une loi sur les droits et obligations des bailleurs. Il a fallu attendre 2007 pour qu'il y ait une loi sur le logement opposable, la loi Dalloz, qui fait une obligation de résultat de la puissance publique pour garantir l'effectivité du droit au logement. Enfin, on sait que la loi Dalloz, elle est loin d'être appliquée. Hein. Et on a toujours 4 millions de mal logés, plus de 12 millions de personnes fragiles au niveau du logement. Et là, avec la loi Elan du gouvernement Macron, c'est pire encore. On va casser le logement social dans ce pays. Et la situation va se dégrader et on va criminaliser justement les squatteurs sans droit ni titre. Pourtant, sur Paris en 2001, vous vous souvenez, non, quand même ? Victoire de Bertrand Delanoë ! Les clés sont brandies à la fenêtre de l'hôtel de Gilles. Les Parisiennes et les Parisiens vont pouvoir reprendre en main leur destin. La promesse, la question du logement sera une question centrale. Ouais. Et en fait, ben, en 3 mandatures, la spéculation s'est aggravée. Les classes populaires et les couches basses moyennes du salariat ont quitté la capitale. La gentrification s'est bien imposée. Pourtant, ils ont fait du logement social. Alors, comment on comprend ça? Moi, j'aime bien expliquer ça comme ça. Alors, c'est très compliqué parce que les bouquins se pètent la gueule. Donc, je demande... Voilà, exactement. Alors, imaginez. Imaginez, on a un quartier où il y a de l'habitat insalubre. Donc là, il y a quand même une priorité, hein. On n'a pas... vous avez vu les drones à Marseille, quoi. Donc, la puissance publique peut préempter. Comment la ville de Paris a pu faire du logement social et pour autant expulser les couches populaires moyennes et salariales? Eh bien, imaginez ces 3 immeubles un peu insalubres. Bon, en même temps, c'est des loyers bas, donc c'est du logement social de fait, on peut dire. Alors, vous avez un premier immeuble, la ville le préempte, mais elle va le revendre à la spéculation immobilière privée. Comme ça, elle va récupérer de l'argent. Donc forcément, dans cet immeuble-là, c'est le privé qui va le rénover, et il n'y aura plus que des gens avec des hauts revenus qui vont pouvoir y habiter. Mais avec l'argent, on va pouvoir préempter ces 2 autres bâtiments-là et faire du logement social. Chouette. Mais quand même, au nom de la mixité sociale, nous ferons un immeuble, on fera un immeuble en PLS. Alors en fait, il y a 3 catégories de logements. Le PLS, le PLAI, PLS. Alors, vous ne perdez pas votre temps à savoir ce que veulent dire toutes les lettres, c'est pas grave. Mais on va dire que PLS, c'est vraiment pour ceux qui ont des bons revenus. Par exemple, le plafond pour un PLS d'une famille avec 2 enfants, je crois que ça va jusqu'à 7000 euros par mois. Hein? Donc, voilà, hein, ça va. Ouais. Et donc, le PLAI, PLS, c'est le logement social vraiment accessible aux classes populaires. Et donc... s'il ne reste plus qu'un immeuble accessible aux classes populaires, vous vous rendez bien compte que par une opération de préemption, on a divisé par 3 le nombre de logements accessibles aux classes populaires. On a fait du logement social, mais on a réduit le peuplement d'un quartier. Alors pourquoi ils font ça? Parce qu'ils font dans une logique d'autofinancement. Alors pourquoi une logique d'autofinancement? Vous avez entendu parler de chantage à la dette? Depuis les années 70, sous Valéry Giscard d'Estaing, l'État n'avait plus le droit d'emprunter à la Banque de France. Il était obligé d'aller sur les banques privées. Et dans les traités européens, que le peuple a rejetés en 2005, eh bien, la Banque Centrale Européenne n'a pas le droit de prêter aux États. Les États sont obligés de prêter au marché financier privé. J'ai dit quoi? Ouais, c'est mieux de dire emprunter, oui. C'était pour voir si vous suivez. Il y en a une qui suit. Hein. Quand même un effort, quand même. Et donc forcément, à chaque fois, il faut non seulement rembourser la dette, mais rembourser les intérêts de la dette. Et donc les collectivités, l'État, s'endettent sur les marchés financiers qui se gaffent sur notre dos. Voilà le problème de cette logique d'autofinancement qui fait qu'on est lié aux intérêts privés banquiers et financiers. La mixité sociale. Mais la mixité sociale, hein, je veux dire, qui c'est qui est contre la mixité sociale? Tout le monde est pour la mixité sociale. Franchement, c'est une valeur positive. Mais on se fait enfumer avec ça. Parce que dans les quartiers populaires, au nom de la mixité sociale, toutes les opérations de logement réservent 30% de logements PLS. Hein, pour lutter contre les ghettos de pauvres. Donc, c'est une bonne raison. Mais les demandeurs de logement, il n'y en a que 10% parmi tous les demandeurs de logement qui ont des revenus équivalents au loyer des PLS. Donc on a mis en place une discrimination, non pas positive, mais bien négative, réelle, à l'encontre des classes populaires dans l'accès au logement social sur Paris. La mixité sociale. En même temps, qui c'est qui est pour les ghettos? Mais vous savez quel est le pire ghetto à Paris?
8e, 7e.
Ouais, 8e, 7e, 16e. Le 16e arrondissement, c'est quand même la belle image, tout le monde sait, quoi. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a des projets de logements sociaux dans le 16e, ça hurle dans les rangs des Républicains. Nous, une fois, avec des Insoumis, on voulait faire une balade dans le 16e façon Pinson Charlot. Pinson Charlot, c'est des sociologues qui ont travaillé sur justement les ghettos de riches, quoi, hein, et comment le comportement des riches. Alors, le problème, c'est qu'il y avait une copine qui avait, dans son enthousiasme, mis ça sur les réseaux sociaux. Ouais, fais la visite, Pinson Charlot. Alors, on arrive au rendez-vous, et là, on voit 15 militants de La République En Marche qui nous attendent au lieu de rendez-vous et qui nous disent « Ici, on est chez nous. Alors, on vient vous accueillir. » On n'avait pas totalement la même notion de l'accueil. C'est toujours une histoire des principes, quoi. On n'a pas tous les mêmes, quoi. Enfin, on a compris qu'on était chez eux et qu'on n'était pas les bienvenus, et ça s'est pas très bien passé. Eh ouais. Une autre arnaque, c'est le concept de mobilité sociale. Hein ? Alors, le concept de mobilité sociale sur le logement, pour La République En Marche, c'est le fait de... Faut pas que tu restes locataire toute ta vie, enfin. Progresse un peu, quand même. Ben oui, toi aussi, t'es locataire. Il y a des propriétaires, là, quand même, dans la salle. Oui, ben, il y a quand même beaucoup de losers. Hein. Ouais. Parce que c'est ça, il faut quand même devenir une France des petits propriétaires. La République En Marche a entendu le message de Nicolas Sarkozy de les réapproprier. Et donc, leur super idée... c'est de permettre quand même aux locataires du logement social de progresser dans leur vie et de devenir propriétaires de leur logement social. Et donc leur grande mesure, c'est de dire, bon, il faut permettre tous les ans 1% de logements sociaux de devenir propriété des anciens locataires du logement social. L'accession à la propriété. Ça veut dire qu'en fait, on va privatiser le logement social et c'est comme ça qu'on va régler le problème du logement. Moi, je... il y a même une sacrée contradiction là-dedans. Dans tout ça, qu'est-ce qu'il est devenu, mon petit papy, là? Avec sa maison fissurée, oui, son appart fissuré.
Ah oui, voilà.
Ouais, et bien alors, donc on n'était pas super nombreux quand on a fait le rassemblement de 20 Paris Habitat. Hein. On était une vingtaine. Bon, il devait y avoir 3 locataires, quoi. Le reste, c'était des militants. Enfin, on l'a fait, quand même. On l'a fait. Et résultat, on avait réussi à avoir un article dans Le Parisien. Avec une autre journaliste. Hein. Et puis BFM Paris, ils flippaient à la direction de Paris Habitat. Ils ont descendu, sont descendus direct. Donc, direct nos pancartes, on avait plus de pancartes que de présents, mais c'est des choses qui arrivent. Hein. Et ils nous ont reçus de suite. 5 jours après,
les travaux commençaient dans l'appartement du papy. Comme quoi, on a eu de sa paille, hein.
Mais moi, je me dis, c'est que quand même, il faudra peut-être qu'un jour, dans ce pays, on comprenne que le droit au logement devrait être supérieur au droit de spéculer sur le logement, quoi.
Absolument.
C'est quand même ça le problème, quoi. Ah, j'avais oublié, j'avais une autre histoire, je la raconte quand même. Ouais, non, parce qu'elle était bien sur les questions des 30% de la mixité sociale, là. Par exemple, Porte de la Chapelle, là, on est aussi sur un... On a pas beaucoup de mixité, donc du coup, ils avaient réservé du logement PLS. Mais Porte de la Chapelle, les gens en bon revenu, vous les brouillez. Ah non. Ah, qu'est-ce qu'ils ont fait, Paris Habitat? Est-ce qu'ils ont transformé ces logements PLS en PLAI, PLUS?
Non.
Eh ben non. Ils ont donc proposé à des locataires qui ont des faibles revenus d'y aller. Moi, j'ai rencontré Sarah comme ça. Sarah, désespérée, elle m'explique. Il y a une dizaine d'années, bah, elle avait fait sa demande de logement social. Ça faisait, je sais pas combien de temps qu'elle avait, au moins 10 ans, quoi. Et on lui en propose un. Voilà, oh là là, enfin, un logement social, quoi. Elle était trop heureuse. Alors, elle a signé, elle a même pas trop regardé, quoi. Puis, en rentrant chez elle, elle a vu que le loyer... pas trop comment elle va le payer, quoi. En plus, elle a perdu son boulot après. Son mari était dans la dèche aussi. Elle, c'était chaud, quoi. Elle est retournée vers Paris Habitat, c'est un bailleur social, ils peuvent comprendre ça. C'est leur job, c'est leur cœur de métier. J'ai dit, écoutez, là, faut me déménager, là, je ne pourrais pas payer le loyer. Ah, déjà, il faut vous rembourser vos dettes de loyer. Et en fait, année par année, elle s'est endettée, Sarah. Elle a dû faire les commissions de surendettement, des emprunts, tout ça, pour essayer de rembourser. Elle est toujours dans une merde pas possible. Parce qu'ils ne l'échangeront pas tant qu'elle n'aura pas remboursé toutes ses dettes. Et en fait, avec Sarah, on s'est rendu compte qu'elle n'était pas toute seule dans son immeuble. Tous les locataires de son immeuble, un immeuble entier quasiment, avec des locataires qu'on a sur... je trouve un terme.
Surclassé.
Ouais, vous trouvez le terme, vous ferez vos propositions. Surclassé, ouais, je pense que c'est ça.
Surclassé. Maltraité,
ouais. Donc voilà, c'était cette parenthèse, cette anecdote, moi je la trouve forte sur l'arnaque de la mixité sociale. Bon, mais maintenant, revenons-en à la question du droit de propriété. Et du droit au logement qui devrait être supérieur au droit de propriété. Vous savez quoi? Il y a un type qui a déjà écrit des trucs, hein, qui n'était pas la moitié d'un con, qui s'appelle Robespierre. On vous en parle peu de Robespierre. Si le sanguinolent qui coupait les têtes.
Oui.
Bah dites-vous une chose, hein. Si on dénigre à ce point-là, c'est peut-être parce qu'il dérangeait énormément. Hein. Robespierre, c'était un député de Paris pendant la Révolution. Il a rejoint un rôle d'État noir. Il voulait ajouter un article à la Constitution républicaine sur la propriété afin qu'elle connaisse une limite. Il faut savoir que lui, il s'était opposé, par exemple, au suffrage censitaire. Et à l'époque de la Révolution, c'est ceux qui étaient pour le suffrage censitaire, vous savez ce que c'est que le suffrage censitaire, hein, que ne votent que ceux qui payent des impôts, quoi, qui sont propriétaires.
Les bourgeois,
voilà. Hein. Eux, ils disaient d'ailleurs, ben non, le peuple, ceux qui n'ont rien, ce sont ceux qui n'ont rien à perdre.
Ça me rappelle pas un truc, hein.
Ah, rien. Ah, c'est une vieille histoire, hein. Ouais. Eh ouais, chacun son camp, hein. Il avait fait cette phrase qui était super, Robespierre. Il a dit cette phrase. Est-ce pour retomber sous le joug de l'aristocratie des riches que le peuple a brisé avec vous le joug de l'aristocratie féodale? Et en fait, il disait, mais c'est quand même dingue, dans la Constitution, vous avez mis la propriété est inviolable et sacrée. Alors qu'en fait, lui s'était battu pour l'abolition de l'esclavage. Il montrait à travers l'esclavage que, bah non, c'est pas possible, quoi. Il faut une limite à la propriété. Vous pouvez être pas propriétaire d'esclaves, d'être humain. C'est pas possible. Ils n'étaient pas d'ailleurs tous d'accord avec lui à ce moment-là. Mais il avait dit, il y a une limite à la liberté. C'est la liberté d'autrui. Il faut donc instaurer une limite à la propriété. C'est la vie et la dignité d'autrui. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Alors moi, je vous dis, et si on se réappropriait Robespierre? Ouais. On se réapproprie?
Ouais.
Face au vote?
Oui.
On se réapproprie Robespierre?
Ouais.
Adjugé?
Venu.
Réapproprié?
C'était un petit jardin qui sentait bon le bassin parisien. Grâce de grâce. Monsieur le promoteur, de grâce, ne touchez pas à mes fleurs. on est moins nombreux à la connaître. C'est une chanson de Jacques Dutronc. Elle est toute belle sur un jardin. Il y a pas mal de luttes comme ça à Paris. C'est vrai qu'on nous explique à la ville de Paris que bah, la solution pour le logement, c'est bétonner, quoi. On construit, on construit, on construit, on construit. Et alors, une fois comme ça, il y a eu une lutte dans le 11e, et j'ai fait la connaissance de Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, donc, elle se bat parce qu'elle n'est pas d'accord que le terrain d'éducation physique de Ménilmontant, un terrain sportif en accès libre où les jeunes peuvent venir quand ils veulent, soit rasé, et que le petit jardin partagé à côté soit rasé pour qu'on fasse du logement privé, du logement social avec la règle des 30%, hein. Et puis des locaux pour les encombrants, enfin tout un tas de trucs, mais où du coup on va tout bétonner. Et elle dit non, c'est pas possible, quoi, faut aussi qu'on respire dans la ville. Alors on m'a expliqué que Marie-Thérèse elle était de droite et qu'il fallait surtout pas soutenir ce combat. Mais en fait, je me suis dit, j'allais quand même m'y intéresser. Ouais. Parce que Paris, il faut savoir que c'est la ville la plus dense d'Europe. Ouais. Il y a à peine 5 mètres carrés d'espace vert par habitant, si vous enlevez les bois. Et qu'à un moment donné, vous avez vu les rapports du GIEC. Sur le réchauffement climatique, il faut aussi se dire que les villes, elles ont aussi une responsabilité, quoi. Face aux dômes de chaleur, il faut absolument qu'il y ait de l'espace vert pour pouvoir faire retomber les températures. Et dès que vous plantez un arbre, eh bien, c'est un capteur à carbone extrêmement important, quoi. Vous s'en préoccupez de tout ça. Alors j'ai soutenu ce combat. La bataille, elle continue, on n'a pas gagné, hein, loin de là. Hein. Mais nous, on se dit toujours qu'on n'a pas complètement perdu. L'espoir fait vivre. On vit, non? Mais il y a plein de batailles comme ça. Par exemple, ils ont décidé de faire une grande ZAC sur Bercy-Charenton. Alors là, il y a un projet, 60% de bureaux. Ça va dynamiser la ville avec l'attractivité économique. Mais on fait aussi du logement, 30% de logements privés. Il y aura 10% de logements, dont 30% de logements
PLS. PLS.
Et le tout avec 6 tours, 180 mètres de hauteur. Ouais. Alors, ils étaient tellement persuadés que tout le monde était d'accord. Ils se sont dit, bon, on va perdre du temps avec de la concertation. Hein. On va pas demander l'avis des Parisiennes et des Parisiens là-dessus, quand même. Ils sont gentils, ils nous économisent nos énergies, quoi. Pas besoin d'aller voter. Il y a plein de combats comme ça. Mais en fait, on se rend compte que notre grosse métropole, là, c'est un lieu de ségrégation sociale et de spécialisation de zone. Je ne sais pas où est-ce que vous habitez, d'où vous venez, mais pour vous expliquer la région parisienne, si vous ne la connaissez pas, et la politique de Paris dans tout ça, ben on sent que, au nom de l'attractivité du territoire, vous voyez ce mot-là, vous allez nous faire en fumée. Et bien l'idée c'est de faire une grosse tourtière en triangle dans le 15e, hein, allez hop là, les bureaux, on va tirer les sièges des grandes entreprises en concurrence avec la défense. Hein. On va laisser la classe ouvrière s'entasser dans le 93, mais de plus en plus loin, parce que le début va aussi se gentrifier. Hein. Allez, à la limite, dans le 77, dans l'étalement en Roudin, on mettra les catégories intermédiaires. Hein. Et alors un truc de dingue, avec cette spécialisation, bah, Paris se dépeuple. Baisse démographique. Voilà, spéculation et Airbnb. On ferme chaque année des écoles. Une fatalité à cela. Comme par hasard, du coup, les distances domicile-travail s'allongent. Et comme dans les transports en commun, on n'a pas de grand chose, on va faire un grand métro à 25 euros le ticket pour relier l'aéroport et les sites olympiques. Hein, parce que, quand même, on est très fiers des Jeux olympiques. Tout le monde l'a voulu, hein. C'est vrai qu'on n'a pas fait de vote non plus. Hein. On savait que vous étiez tellement attachés à cela qu'on ne vous a pas donné cette peine. Mais tout ça, ça crée de la pollution, forcément. 2500 morts prématurés par an à cause de cette organisation spatiale. Alors, moi, je me dis, peut-être qu'on devrait aussi découvrir tout ce que raconte Naomi Klein. Vous connaissez Naomi Klein ?
Non.
Moi, pas assez. Faut que je la lise. Tu vois, du coup, c'est pas son bouquin, j'en ai pris un autre. Faut que je potasse. Ça a l'air d'être vachement intéressant ce qu'elle explique, cette dame. Et en fait, elle explique qu'en fait, il y a une urban green war. Il y a une guerre de greenwashing capitaliste sur la ville, quoi. Et en fait, elle nous fait vachement cogiter. Elle nous dit, c'est peut-être pas la nature humaine, mais la nature du capitalisme qui nous empêche de répondre à l'urgence climatique. En fait, sur Paris, c'est peut-être pas la nature de Paris
la nature dense de Paris qui est le problème en tant que tel, mais plutôt la nature capitaliste de son hyper-densification actuelle. On va creuser ça, mais il y a plein de conférences gesticulées en ce moment qui sortent sur la notion de anthropocène ou capitalocène. Waouh, déjà deux mots. Anthropocène, grosso modo, ben, c'est la nature humaine qui fait que qu'elle marque le développement du pays, de notre écosystème, et qui fait que notre écosystème peut être mis en danger et peut y avoir une grande rupture, quoi. Et capitalocène, attention, ce terme-là veut dire non. C'est pas à cause du mode de vie des hommes. C'est à cause du mode de vie capitaliste que les hommes ont pris. Donc on peut, pour éviter la fin du monde, se dire que peut-être on peut aussi construire la fin du capitalisme. Ça, c'est une grosse autre conférence gesticulée, donc il faudrait bien les croire. Petite chanson. Mmh. Ah, les jolies colonies de vacances, merci papa, merci maman. Tous les ans, on voudrait que ça recommence. Youkadi, yadi, yada. Voilà, c'est carton plein, tout le monde connaît le tube, ouais. Bah ouais, les colonies de vacances. Ah là là, les colonies de vacances. Oh, une fois, je reçois un mail. Plein d'autres élus étaient en copie du mail. Une certaine Chloé qui m'écrit, qui nous écrit, et qui nous dit, mais on vient de découvrir sur le site de la ville de Paris que l'inscription pour les colonies de vacances de cet été, c'était plus possible, parce qu'il n'y aurait plus de colonies de vacances organisées par la ville de Paris. Wow ! Ah ouais ? Pourquoi ? Ce scandale, j'avais pas vu, moi. On m'a pas fait voter là-dessus au Conseil de Paris. Tout de suite, je contacte Chloé, pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Elle est au courant, moi je suis pas au courant. Alors, j'ai encore raté un truc. Elle me dit, ben voilà, alors, j'essaie de comprendre. Puis on réalise qu'en fait, ben ouais, dans le budget, en loose day, ils ont supprimé 3 millions d'euros. Fini les colonies de vacances. Ouais. En fait, les colonies de vacances, on découvre en contactant plutôt des gens qui nous contactent, parce que j'avais fait des coups de gueule en vidéo sur Facebook. Il y en a un, il me dit, ben moi, je peux vous parler en discret, quoi. T'es responsable, je le balance, il était responsable du dispositif fonctionnaire. Il dit, mais pendant des années, on me donnait que des vacataires pour bosser le dispositif des colonies de vacances. Alors en fait, les vacataires, ils étaient embauchés pour 8 ou 9 mois, ils bossaient, ils préparaient les colonies de vacances avec les prestataires, avec les familles, le site internet, les inscriptions. Puis quand tout était fait, ils pointaient à la NPE. Et puis après, 3-4 mois plus tard, hop, on les réembauchait en vacataires. Et bien vous savez quoi, au bout de 4, 5, 10 ans, ils n'étaient plus d'accord. Donc ils ont gueulé, ils ont dit, mais attendez, ça suffit, nous on veut titulariser, c'est-à-dire devenir fonctionnaire, avoir une protection, avoir un vrai statut, et puis être payé toute l'année pour le boulot qu'on fait, c'est un besoin permanent. Voilà. Sinon, on arrête tout. Et bien la ville, elle s'est dit, on arrête tout, 3 millions d'euros d'économie. Pourquoi que la ville a besoin de faire 3 millions d'euros d'économie? Vous avez entendu parler de la contractualisation?
Oui.
Ben ouais. En fait, je ne sais pas si, pour ceux qui n'ont pas entendu parler de ça, je ne sais pas si vous vous souvenez de la crise en Grèce.
Oui, oui.
Hein? Et vous aviez la Troïka, les institutions de l'Union Européenne, qui faisaient un chantage, un coup d'État financier sur la Grèce, en disant, ah, on vous impose des mémorandums, c'est-à-dire des programmes de politique d'austérité, de privatisation, hein? Sinon, hop, vous sortez de l'Union Européenne, voilà, si vous ne faites pas les politiques libérales qu'on a imposées, on ne vous prête plus l'argent de la BCE, par le biais de la BCE et du marché financier, quoi. Et bien là, Macron, il fait la même chose avec toutes les collectivités. Ah, vous voulez votre DGF, votre dotation globale de fonctionnement, c'est-à-dire les dotations de l'État. Eh bien, engagez-vous à signer un papelard avec nous, l'État, dans lequel vous vous engagez à ne pas augmenter vos dépenses publiques de plus de 1,2%, quel que soit votre projet. Et donc, c'est une contractualisation qui condamne l'ensemble des collectivités à faire des politiques d'austérité. Et la ville de Paris, elle est bonne élève. C'est la première ville qui a décidé, d'accord, on fait cette contractualisation. Les résultats, ça pousse à aller chercher les intérêts privés, quoi, à privatiser tous les usages de la ville. Par exemple, vous, dans la ville, vous habitez en ville ou à la campagne? Qui c'est qui habite en ville? La grande majorité. Il y a une grande majorité d'hommes et de femmes maintenant qui se concentrent dans les villes, quoi. Mais du coup, on est interdépendants et ça peut, il peut y avoir des réponses collectives pour satisfaire tous nos usages, tous nos besoins. Hein, on appelle les communs, quoi. Pour aller à l'école pour les enfants, pour se soigner, pour la culture, pour les transports. Ben ça, c'est aussi devenu un marché potentiel pour les intérêts privés. Le marché des usages urbains. Et les entreprises, elles viennent. Par exemple, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Vélib?
Oui.
Nous, on est super chers à Paris, parce qu'on a ce dispositif de vélo en libre partage. Voilà, c'est vachement bien. Sauf que bon, ben là, l'année dernière, le marché était fini avec JCDecaux, donc il y a eu un marché d'appel d'offres. Et il y avait une autre entreprise qui s'appelle Smooth & Go, qui a remporté le marché. Bon, pas grave, très bien. Sauf que au bout d'un mois, c'est rien qui marchait. Ça ne marchait pas du tout. Et là, il y a Mohamed qui me contacte. Je le connaissais parce qu'il avait fait les grèves avant avec JCDecaux, sous JCDecaux, parce qu'il voulait absolument que les salariés de JCDecaux soient repris par le nouveau prestataire. La ville, elle n'en avait rien à faire. On avait soutenu cette bataille-là. Il y avait eu un accord, certains avaient été repris. Enfin, c'était un peu foireux, le truc. Hein. Et là, il me dit, ben là, c'est encore plus foireux, Madame Simonet. C'est une cata. Ils étaient embauchés par Smooth & Go, mais avec des conditions salariales bien moindres, en effectif bien moindre. Et vraiment, tout était dégradé, quoi. Et en fait, on découvrait que si Smooth & Go avait emporté le marché, c'est parce que c'était beaucoup moins cher. C'était le dumping social, quoi. Et ben, vous savez quoi? Quand on met moitié moins de salariés, et ben après, vous savez quoi? Ça fonctionne pas. Alors après, j'ai découvert quand ils ont privatisé le contrôle de la verbalisation du stationnement, c'était l'entreprise Striteo, c'est toujours l'entreprise Striteo, une des deux qui a emporté le marché. Et ben pareil, il y a plein de malversations, ils font une pression sur les salariés monstrueuse. C'est une catastrophe, ça fonctionne pas. Puis alors, je me suis rendu compte que les parkings municipaux, la moitié des parkings municipaux sont pris aussi par une autre boîte, ex-Vinci Park, Indigo. Et là, j'ai mis 45 millions de bénéfices nets dans la poche. C'est des parkings municipaux, hein, mais gérés par un partenaire privé. Eh bien, vous savez quoi? Ces trois entreprises sont rattachées au même groupe, Indigo. C'est pas beau, ça, la vie? Est-ce que je vous raconte après? Ça va toujours bien?
Ouais.
Voilà, tiens, une petite question là. Dites-moi des idées de métiers qui pour vous dans la ville sont super importants et qui justement permettent de satisfaire vos besoins, vos usages, vos communs.
Un
genre de chrétien.
Agriculteur.
Médecin.
Égoutier.
Égoutier, infirmier.
Instituteur.
Alors là, par exemple, là, il y a un truc qui va falloir que je recolle rigide, parce que normalement, agent d'entretien, c'est le métier auquel on ne pense jamais. Normalement, la pirouette, c'est de dire, ouais, vous pensez à plein de métiers, mais les agents d'entretien, les agents du nettoyage, c'est pourtant essentiel, et jamais personne ne le dit. Alors là, pirouette, cacahuète, la pirouette, je ferais comme si je n'avais pas entendu, quoi. Et voilà, il y a plein de métiers, mais il y en a un souvent auquel on ne pense pas, c'est agent du nettoyage. Mais vraiment, hein. Comme si on était des gros dégueulasses et qu'on faisait jamais de ménage chez nous. Et qu'on s'en foutait de mettre nos enfants dans une école pas lavée ou une bibliothèque pas lavée. Et là, il y a une femme, j'ai pas eu le temps de faire sa connaissance. J'ai appris son existence quand le Parisien a fait un article sur son décès. Sabine. Elle s'appelait Sabine Bourin. Elle faisait le ménage dans les bibliothèques de la ville. Elle travaillait en situation de travailleuse isolée, seule, dans une bibliothèque, 6 heures d'affilée pendant que la bibliothèque était fermée. La ville pourtant fait des formations à tous ses agents, ses élus, ses associations, ses citoyens pour les premiers secours. Mais elle était en situation où personne ne pouvait lui apporter ses premiers secours. Elle avait un petit boîpier, un beeper. On l'a retrouvée morte au moment où elle se changeait. Elle n'avait pas de beeper sous la main. On ne sait d'ailleurs pas si le beeper fonctionnait, quoi. Alors je suis montée au créneau, les syndicats sont montés au créneau, ils ont obtenu que maintenant il n'y ait plus de situation de travailleuse isolée. Puis 2 semaines après, on a appris dans la presse que, en fait, Sabine, avant, elle travaillait en mairie du 20e. Travaillait en mairie du 20e et puis ça se passait mal avec le directeur général des services, elle était victime en fait de discrimination sexiste, raciste, grossophobe. Et c'est son supérieur à s'être tétanisé par le grand directeur général des services qui, pour la protéger, l'avait déplacée. Elle l'avait mis dans sa bibliothèque. La semaine dernière, je pense vraiment avoir fait mon intervention au Conseil de Paris la plus importante pour moi de toute la mandature. sur ce directeur général des services. J'étais déjà intervenue en 2014 parce qu'on savait tous qu'il y avait des problèmes. Mais les agents, ils flippaient, ils ne voulaient pas parler. Trop peu étaient syndiqués. Les syndicats n'arrivaient pas à avoir des témoignages pour mener la bataille. Et à ce moment-là, quand j'étais intervenue en 2014, personne n'avait réagi. Les élus avaient tous regardé leur pompe. Ils m'avaient dit après dans les couloirs, tu exagères. Du coup, je ne savais pas quoi faire, j'ai rien fait après. Je pense que j'ai vraiment pas exagéré, je pense même que j'ai merdé, j'aurais dû continuer. Là, je suis réintervenue, vous savez ce que j'ai obtenu? Non seulement il y aura une inspection générale des services, mais le mec là, le directeur général des services, va être suspendu de ses fonctions. Il ne sera plus les pieds en mairie du 20e. Avant-hier soir, il y a un agent qui m'a appelé. Il m'a dit quand j'ai appris la nouvelle qu'il allait être suspendu, j'ai pleuré. Peut-être que Sabine, ça va être une des dernières fonctionnaires du nettoyage. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les agents du nettoyage, tout le monde s'en fout, on l'a envoyée d'abord en situation de sous-effectif. Elle avait de la chance, elle était en CDI. Fonctionnaire, en CDI. Enfin, oui, elle n'était pas fonctionnaire. Si, elle était fonctionnaire. Elle était fonctionnaire. Elle était fonctionnaire. Mais de plus en plus, on en prend des précaires. Des vacataires, hein, pas des titulaires. Mais ce qu'on fait aussi, c'est qu'on développe la sous-traitance. Et là, on a appris par les syndicats que finalement, les bruits dans les couloirs, c'est que tous les départs en retraite, eh bien, ils n'allaient pas être remplacés et qu'on allait augmenter tranquillement sans que ça se voit les lots alloués à la sous-traitance. Sauf que quand vous êtes en sous-effectif, en situation de travailleur isolé, en situation de précarité, mais c'est une catastrophe. Parce que des cas comme Sabine, on va en avoir combien? Et c'est à la qualité du service public qui a la fin se dégrader. Ouais, alors la mort, c'est quand même pas un sujet folichon pour en parler. Hein, alors, mais en même temps, c'est un sujet hyper important. Hein. Dans la question des cimetières, par exemple, c'est aussi une question des usages. Hein. Alors sachez que la spéculation sous terre est aussi importante que la spéculation au-dessus de la terre. Ouais. Eh ouais. Ça coûte cher hein, de trouver son petit caveau, sa petite tombe, sa petite emplacement, son petit terre. Eh ouais. Alors, Sabine, elle veut développer du coup la crémation. Alors, moi, j'ai découvert, ça y est, j'ai encore oublié les mots, mais c'est pas grave, il y a d'autres, dans d'autres pays, il y a d'autres choses hyper écolo qu'on fait pour la fin de nos corps. Soit dans de l'azote liquide, soit encore mieux comme du... comme du compost. Hein, on transforme ton corps en compost. Moi, j'adorerais qu'on puisse enfin avoir le droit de faire ça. Et je serais trop fière de me dire, moi, je vais être dispatchée comme ça pour que les petits coquelicots puissent se développer à la sauvage dans des jardins, des villes, des campagnes. Bon, mais pour l'instant, on va construire un nouveau crématorium. Alors, on a une société d'économie mixte, qui gère le crématorium du Père Lachaise. On aimerait bien que ce soit aussi cette société d'économie mixte qui gère ça. Société d'économie mixte, ça veut dire que c'est une entreprise dans laquelle la ville est majoritaire, d'accord? Mais quand même, il faut faire une délégation de services publics. Donc, on va faire un marché, enfin un marché. On va faire une mise en concurrence, un appel d'offres. Mais ça veut dire qu'on prend le risque qu'une autre entreprise privée postule et peut-être reprenne. Imaginez, quelle entreprise privée pourrait reprendre? Moi, je me suis dit Suez. Suez Environnement. Suez Environnement, ils vont gagner pour 2 milliards d'euros la nouvelle grande usine d'incinérateur des déchets d'Ivry. Alors moi, je me dis, un truc totalement anti-écologique, mais s'ils sont professionnels dans l'incinération des déchets, la crémation de nos corps, ils maîtrisent, non? Moi, quand j'étais petite, avec une copine, ça nous arrivait d'aller jouer dans le cimetière. Peut-être à cause de l'ambiance Jeux interdites, ce film-là qu'on avait adoré. Alors, on allait dans le cimetière, parce que déjà, on n'avait pas le droit. Puis alors, on s'était rendu compte. Mais c'était pas bien du tout, il y avait des tombes avec des fleurs, et il y avait des tombes où il n'y avait absolument aucune fleur. Alors c'est là que j'ai fait mon premier acte éco-socialiste, à 8-10 ans. On a pris toutes les fleurs et on les a réparties dans tout le cimetière. Les fleurs coupées, les fleurs en pot, les fleurs en plastique, les fleurs en marbre. Comme on mangeait des graines de tournesol, on en a planté aussi dans les pots de terre où il n'y avait plus rien. C'est con parce qu'on n'avait pas encore la conscience du temps long nécessaire dans la planification écologique, donc on n'a pas regardé quelques mois plus tard s'il y avait des soleils qui avaient fleuri dans tout le cimetière. Je ne sais pas quel bordel il y a dû avoir après dans le village, de savoir que c'est le petit con qui avait fait ça. Bon. Mais c'est vrai que la ville, c'est aussi un terrain de jeu. Un terrain de jeu des grandes enseignes.
Ah ouais.
Les centres commerciaux. Alors, bon, quand vous allez à Paris, vous n'y allez pas avec votre voiture. Soit vous arrivez de l'étranger, vous arrivez à Charles de Gaulle Étoile, l'aéroport, l'ADP. Alors il va être privatisé, et transformé en grand centre commercial. C'est Vinci World Company qui va gérer tout ça. Grand centre commercial, classe. Soit vous arrivez par la gare du Nord. Là, c'est Muliez, le grand groupe Auchan. Encore d'autres pros de l'évasion fiscale. Des gens très doués, hein. Là-dessus, surtout. Soit vous rentrez par Châtelet-Léal, le RER. Hein. Moi, j'arrive rarement à Paris en avion. Hein. Et donc là, c'est aussi un grand centre commercial, Unibail. Il faut savoir que quand ce centre commercial a été... il y a eu des projets de rénovation, et bien la ville, elle a vendu le ventre de Paris, comme aurait dit Zola, quoi, à Unibail Rodemco, pour une bouchée de pain. 120 000 et quelques euros, alors qu'aujourd'hui... 120 millions d'euros. Mais voilà, pardon. Mais aujourd'hui, c'est plutôt 1 milliard. Hein. Ça doit coûter. Surtout qu'ils n'ont pas payé un centime de travaux. C'est la collectivité. Les impôts des contribuables de Paris, ils ont payé tout ça. Mais Unibail Rodemco, d'ailleurs, ils tiennent maintenant le chantier des Halles, la grande tour triangle du 15e, là, 180 mètres de haut, et puis aussi le centre commercial de Montparnasse. Et vous savez qui c'est l'ancien responsable de la communication de Unibail Rodemco? Un mec qui a des visées sur Paris, qui est porte-parole du gouvernement Macron.
Grimaud.
Benjamin Grimaud. Mais le mec, il connaît Paris au moins. Hein, il a déjà bien communiqué là-dessus. Ça fait cogiter quand même. Moi, je me souviens d'une camarade... Qui menait des batailles sur justement ce problème des grandes surfaces. Elle s'appelle Erika. Elle a monté un collectif dans le 10e Stop Monop. Parce qu'il y avait encore un supermarché qui allait s'imposer dans le quartier alors qu'il y en avait plein. Et du coup, il y a eu tous les habitants qui se sont mis ensemble en se disant « mais c'est pas possible, quoi. D'abord, on préfère la diversité de nos petits commerces. Puis sur ces lieux-là, il y a peut-être des locaux associatifs, d'autres projets, ou bien des locaux pour des AMAP. Vous savez tout ce que c'est une AMAP?
Oui.
Hein, bon, grosso modo, on se met d'accord avec des petits producteurs locaux pour pouvoir avoir les fruits et légumes de saison. Et comme ça, eux, ils ont un revenu garanti, quoi. Puis dans notre assiette, on s'est dit ça vient, quoi. On s'est dit qu'on peut penser différemment tout ça, quoi. Alors, ils ont mené une bataille, ils l'ont en partie gagnée, puis ils essayent de semer, mais c'est une vraie bataille. Mais il faut comprendre que l'enjeu des grandes enseignes sur la ville, c'est pas simplement de se faire du fric sur notre dos. C'est dans nos têtes. Faire en sorte qu'on ne soit plus des citoyens, qu'on soit des consommateurs. Mais pas uniquement. C'est un outil aussi pour déréglementer le travail. Vous avez vu que c'est quand même par les commerces, travail du dimanche, travail de nuit, ils essaient de tout briser, nos équilibres de temps sociaux. Quoi. Cette mainmise comme ça des intérêts privés sur la ville, elle a plusieurs objectifs. Et la façon de l'organiser socialement la société, c'est très fort, quoi. Dernière axe de bataille aussi qui mène, c'est toutes les notions autour des creative workers. Pour le développement économique, il faut absolument faire venir les créatifs. Hein, les premiers cordés dans la capitale. C'est important. Comme si déjà c'était passé gentrifié. Un jour comme ça, j'interviens au Conseil de Paris. Et je dis à un mec qui s'appelle JLM, alors c'est pas Jean-Luc Mélenchon, c'est le JLM de droite, Jean-Louis Missiga. C'est l'ultra-libéral du Conseil de Paris, le macronisé de première heure. Et je dis, monsieur Jean-Louis Missiga, vous êtes en fait un trafiquant de cam. Ah ouais. Puis alors, vous êtes addict. Vous êtes complètement drogué. Alors attention, hein, avant que vous me fassiez un procès en diffamation, j'explique ce que c'est que la cam. En fait, il y a eu des travaux de deux économistes, vachement intéressants, qui s'appellent Olivier Moubaolga et Michel Grossetti, qui ont montré qu'en fait, la stratégie justement des creative workers, et le fait de croire que le développement économique, ça se passe dans les grands centres urbains, par l'innovation, au développement des clusters,
dit, des clusters, des incubateurs à start-up, toutes ces choses-là, c'est d'ailleurs le seul truc où là tous les objectifs de campagne sont atteints et dépassés. Comme si ça, ça allait créer de l'emploi, puis c'est du gros pipeau, quoi. Et alors la CAME, c'est A-M-E, compétitivité, attractivité, métropolisation, excellence. Et bien aujourd'hui, dans toutes nos métropoles, les commissaires priseurs sont des trafiquants de CAME. Alors. Parce que derrière ça, il y a le rêve de faire croire, ceux qui se sentent classe moyenne vont pouvoir accéder à la classe dominante, quoi. Parce qu'ils vont être considérés comme des creative workers et vont devenir des premiers de cordée. Mais cette idée de classe moyenne, là, ça veut dire quoi? Vous souvenez-vous, la première fois où vous avez réfléchi sur le sentiment d'appartenir à une classe sociale?
Oui, absolument.
C'était la dernière.
Non, ne me redites pas tout ça, mais ça va. Moi, quand j'étais petite, à la campagne, comme mes parents, ils étaient sculpteurs, architectes, ils faisaient plein de sculptures dans tous les sens, là, bizarres dans le jardin. Pour les copains et les copines, pour eux, j'étais la bourge. Mais alors, quand j'étais en vacances avec mes cousins, cousines, je me rendais bien compte que pour eux, j'étais la bourge.
T'es la bourge.
Pas facile, tout ça. C'est bien plus tard que j'ai compris qu'en fait, il y a un gars, là, il n'a pas dit que des conneries, hein, Karl Marx. Expliquait qu'il y avait une lutte de classe, quoi. C'est ça le moteur de l'histoire, entre ceux qui détiennent, qui sont propriétaires de tous les outils de production, quoi, qui possèdent tout, puis ceux qui ont juste leur force de travail, quoi. Et qui vont essayer. Puis qu'il y a des intérêts antagonistes entre les deux. Et qu'en fait, cette notion de classe moyenne, en fait, il n'y a aucun sociologue qui était capable vraiment de la définir et de la théoriser. C'est peut-être justement une grosse arnaque pour qu'on ne pense plus socialement les antagonismes. Hein? Mais moi, je peux vous dire qu'il y en a la conscience de classe, ils l'ont, au Conseil de Paris. Pas forcément la même que la mienne, comme les principes. Par exemple, une fois, il y avait une lutte sur Carrefour, vous vous souvenez? Vous vous souvenez que le grand groupe Carrefour a voulu fermer plein de magasins?
Oui.
Bon, moi, je connaissais bien le problème parce que ma belle-sœur, elle est caissière à Carrefour dans le 15e. Et elle, faire de son boulot qu'elle avait depuis X temps. Vous lui parlez de tous les plans sociaux, hein. C'est juste pas ce qu'elle va faire plus tard. Parce qu'elle a été que caissière dans la vie. Alors c'est pas simple. Alors bon, moi j'avais fait un vœu pour le Conseil de Paris, je me doute bien que, le patron de Carrefour, on n'a rien à faire du vœu du Conseil de Paris, mais je pouvais venir sur le terrain et puis au moins faire ça. Et comment on en parle? Puis je savais que ça rajoutait un peu de la fierté à ceux qui luttent, de dire « Ah ben, on en a parlé quand même aussi au Conseil de Paris, puis ça pousse les médias à faire un article, donc c'est des petites choses, quoi. » Mais c'est toutes ces petites choses-là qui peuvent aussi aider une lutte, quoi. Chacun fait ce qu'il peut, ce qu'il sait faire. Alors j'avais fait un vœu pour que la ville soutienne et interpelle Carrefour. Et là, j'ai un collaborateur de l'adjointe en charge du commerce qui m'appelle. « Oh, Madame Simonet, j'ai une bonne nouvelle. On va pas soutenir votre vœu, sachant. Ouais, mais pour une bonne raison. »
Ah bon?
Ouais, alors on a vu la direction de Carrefour, bon, pour un tout autre sujet, ils ne nous le diront jamais, dommage. Mais alors, on les a du coup, on en a profité, comme on avait vu votre vœu passer. On a dit, alors, ça va devenir quoi, les magasins? Sans mon vœu, ils n'auraient pas pensé à poser la question. Vous voulez me parler de Carrefour, mais c'est pas grave. Et là, ils nous ont bien dit, non. Les magasins à Paris, ils ne fermeront pas. Ils nous l'ont dit. Alors moi, je me suis dit, peut-être je ne vais pas tout de suite prévenir ma belle-sœur. Je sais pas pourquoi je le sens pas. J'appelle quand même les référents syndicaux avec lesquels j'étais en contact, de plusieurs syndicats, pour dire ouais, c'est une bonne nouvelle ou ils se font complètement enfumer là. Écoutez, on va voir, enfin lundi, il y a, je sais pas comment ils appellent ça, enfin la réunion au sommet de Carrefour où les choses vont se négocier, se discuter, on te le dira par SMS, mais pour nous c'est mort quoi. Ça va pas le faire. Ils vont les fermer les magasins. Ça tombait bien, moi mon vœu, je le présentais l'après-midi. Je reçois les SMS le lundi matin et oui, effectivement, c'était mort, quoi. Tous les magasins sur toute la France qui étaient prévus de fermer, ils fermaient, et pareil sur Paris, quoi. Pas un de sauvé, dans la liste qui était déjà publiée. Alors du coup, je vais voir l'adjointe, je lui dis, mais écoute, là, regarde, c'est pas vrai, ils sont foutus de ta gueule. Je dis, ah, j'ai pas les mêmes informations. Mais regarde sur Internet, on le voit, tous les sites Internet d'informations relayent que,
que c'est bon, là, c'est mort, hélas, ils vont tous fermer, quoi.
Et bien, en séance plénière du Conseil de Paris, au moment où je présente mon vœu, elle a quand même eu le tout bête de dire « Je suis très embêtée, Madame Simonet, parce que vous dites que les magasins vont fermer, mais moi, j'ai des informations avec la direction Carrefour qui ne sont pas les mêmes. » C'est-à-dire qu'en fait, pour qu'on comprenne bien, cet élu était tellement persuadé que de faire partie du même monde que les dirigeants de Carrefour, qu'en aucun cas, elle ne pouvait penser une seule seconde que les dirigeants de Carrefour lui avaient menti. C'est ça aussi la conscience de classe. Vous comprenez ? On va y arriver. Alors moi, je me suis dit, toute cette ville, elle part quand même à volo, parce que pendant qu'il y a tous ces antagonismes-là, je ne sais pas ce que vous voyez, mais enfin, on voit de plus en plus de personnes SDF, de personnes à la rue. Des exilés qui sont laissés à l'abandon sans avoir accès à l'hébergement. Tiens, des mineurs isolés étrangers aussi, qui ont la responsabilité directe du département, pas de l'État. Une fois, comme ça, il y a un militant associatif qui vient dans mon bureau avec un mineur isolé. Ça se voyait sur sa gueule au gamin qui avait 15 ans, quoi. Et qui était vraiment bien mineur, quoi. Alors, comme il n'avait toujours pas de place d'hébergement par le département, alors c'est son obligation, j'appelle le cabinet de l'adjointe. Et là, du coup, j'ai fait un autre mode guerrier, quoi. Je fais « Allô ?» Alors, c'est simple, là. J'ai un jeune, ça se voit qu'il a 15 ans. Je donne 5 jours. 5 jours pour vous lui trouver un hébergement. Sinon, je fais une vidéo avec le jeune, je mets tout ça sur les réseaux sociaux pour que tout le monde comprenne. « Ah mais non, mais Madame Simonet, c'est pas possible. Vous pouvez pas faire du chantage, on ne travaille pas comme ça, d'habitude. 5 jours, ok ? Allez, 5 jours, top chrono. » Tac. On fait tout de suite la vidéo, comme avec le jeune, parce qu'au cas où, on la publie pas tout de suite. Pendant 5 jours, on avait mis 5 jours parce qu'on savait qu'on avait, par le tissu de solidarité, il était hébergé autrement le gamin par des collectifs citoyens qui prennent en charge les mineurs isolés étrangers. Au bout de 5 jours, pas de nouvelles. Aucune proposition pour le gamin. Alors du coup, je publie la vidéo. La vidéo, elle est vue. Et alors du coup, le soir même de la publication de la vidéo, le cabinet de l'adjointe me rappelle « Madame Simonet !» On a fini par trouver une place pour le jeune. Madame Simonet, oui, vous pouvez retirer la vidéo. Non. On a modifié le commentaire, mais il faut se battre. Sur chaque chose, il faut se battre. Ouais. Il ne faut jamais oublier cette phrase de Victor Hugo. C'est de l'enfer des pauvres qui fait paradis. Les deux sont liés. Alors moi, je me suis dit, mais il y a un mec là, Henri Lefebvre, il n'est pas forcément hyper connu du grand public. C'est un grand sociologue engagé qui a bossé sur le droit à la ville. Hein ? Et en fait, alors, c'est ardu, hein, mais c'est vachement intéressant ce qu'il raconte. En fait, Henri Lefebvre, il nous explique que la réalité urbaine, eh ben, il faut qu'elle soit destinée aux usagers et non point aux spéculateurs, aux promoteurs capitalistes, et au plan des techniciens. Et en fait, il a défini le droit à la ville. Le droit à la ville se manifeste comme forme supérieure des droits. Droit à la liberté, à l'individualisation dans la socialisation. Je m'en ferai 3 copies doubles. À l'habitat et à l'habité. Le droit à l'œuvre, à l'activité participante, et le droit à l'appropriation, bien distinct du droit de la propriété, s'impliquant dans le droit à la ville. En fait, il veut développer une stratégie urbaine à construire qui repose sur la force sociale qui a intérêt, eh bien, à mettre fin à la ségrégation sociale qui agit contre elle. Voilà. En fait, il nous dit, ben voilà, il faut que les gens dans la ville, ils se réapproprient les usages de la ville, les communs, et il faut les émanciper des intérêts privés. Alors moi, je me dis, Henri Lefebvre, là, il faudrait qu'on se le réapproprie. Est-ce que vous êtes d'accord pour se réapproprier en plus le fait ?
Oui.
Oui ? Oui, une fois ? Une fois ? Adjugé ? Réapproprier ! Oh, réapproprier, nous ne vaut rien, nous. Alors, au village sans prétention, je me donne la réputation.
Je n'aimais donc je reste pas, je passe loin, je ne sais quoi.
Je ne fais pourtant de mal à personne.
En écoutant pas le clairon qui sonne,
mais non, les frappes, j'en aime pas que l'on suit une autre route que.
Non, les frappes, j'en aime pas que
l'on suit une autre route que.
Ouais, celle-là aussi, vous la connaissez. Si, Brassens.
Donc moi, je la connais bien, puis alors, elle est super importante pour moi. Parce qu'alors, mes parents, comme ils avaient été... ils avaient ce procès et qu'ils sentaient bien que ça allait être pas terrible, quoi, et qu'il fallait qu'ils quittent la baraque, bah, du coup, ils ont accéléré sur leur projet. Eux, ils sont sculpteurs, mais ils sont architectes de diplôme, hein, de formation. Donc, leur grand rêve, c'était de faire leur maison dans leur art, quoi. Alors, mes parents, ils sont très imprégnés des années 60-70. À ce moment-là, vous aviez des projets en béton projeté de maisons en demi-sphère, comme ça. Eux, ils travaillent le stratifié. Résine, fibre de verre, donc comme les coques de bateau. Donc leur projet, c'était de faire une maison comme ça, en plein de demi-sphères, quoi. Délire. On rêvait qu'on était gamins, cette baraque, on aurait été un jour. Et bon, bah, le problème, c'est qu'il faut un terrain qui soit en dehors des villages, parce que par contre, vous ne pouvez pas mettre une architecture comme ça au milieu d'une architecture traditionnelle, il faut respecter tout le monde, quoi. Donc ils avaient acheté un petit terrain qui n'était pas constructible, qui était en dehors, et puis ils essayaient de voir si ça peut être constructible, bon, au cas où, quoi. Et à ce moment-là, la bourgeoisie du village, elle était en panique. Et elle n'était pas d'accord du tout pour ce projet. Alors ceux qui avaient de l'humour avaient parlé de Nichonville. Hein. N'y voyaient aucun signe de la domination patriarcale. Nichonville, des demi-sphères comme ça. Chacun ses projections, ses fantasmes. Les autres avaient d'autres fantasmes et parlaient du village nègre. Oh, alors là... Alors pour calmer tout le monde, mes parents avaient décidé de faire une réunion. On avait mis les petits papiers dans la boîte aux lettres, dans tout le village, mon premier porte-à-porte, premier boitage militant, pour inviter tout le village pour leur expliquer c'était quoi le projet. Sauf que mes parents, pour commencer la réunion, ils avaient mis la chanson de Brassens. Je suis pas sûre que c'est calmé, bon, c'est vraiment l'ambiance du village, quoi. Bon alors ils ont jamais réussi à faire en sorte que le terrain soit très constructif, alors du coup ils ont mis une sculpture à eux. J'ai amené la maquette. C'est cette grande chaise blanche. En vrai, elle fait plus de 3 mètres de haut. Faut que j'en demande d'ailleurs la taille précise pour la prochaine fois. Donc, ils ont mis cette grande sculpture, cette belle chaise blanche, sur leur terrain à eux. Ben, ils ont eu droit à une pétition. Et ils ont eu droit à un procès. Ils ont eu droit à un procès et figurez-vous qu'ils ont perdu leur procès. Ils ont perdu leur procès et pour cette chaise, eh bien, ils ont été condamnés. Coupable de grandeur et de blancheur, et pour ses motifs d'avoir osé créer une rupture dans l'environnement. Véridique, hein. En fait, il faut comprendre que la bourgeoisie de ce village ne pouvait pas accepter que les codes culturels ne soient pas les leurs, et que finalement des artistes puissent avoir leur propre code, leur propre langage, leur propre expression, indépendamment de leur pouvoir à eux. Alors, comme on a perdu le procès qu'il fallait raquer 1000 francs par jour si on laissait la sculpture sur son terrain, donc on l'a tout de suite. Alors, mes parents, quand ils font la sculpture, ils font un système modulaire. Donc là, on ne le voit pas sur cette maquette, mais ça se démonte en fait. Donc ils ont démonté d'abord, on a démonté le haut. Et quand on a démonté le haut, on s'est rendu compte que c'était tout rempli de paille. Les gens du village avaient rempli de paille la sculpture.
Ils mettent le feu.
Ben voilà, je pense que leur projet c'était de mettre le feu, quoi. J'ai eu des images du Ku Klux Klan à ce moment-là.
Ah ouais.
Ça va loin, hein. Mais faut pas croire que tout le village était derrière eux. Il y avait la moitié de l'autre village qui était avec les parents. Oh, s'en foutaient de l'art contemporain. Donc, bon, les Simonais, on comprend pas trop bien ce qu'ils font. Mais enfin, il y a du travail derrière, il y a du métier. Et en fait, c'était l'alliance des ouvriers, ceux qui œuvrent. Tous ceux qui ont un métier, ceux qui bossent, on les fait pas chier, quoi. Et finalement, ils sont solidaires, les ouvriers, contre la bourgeoisie. Bah, Paris, c'est une capitale culturelle, quoi. Mes parents, ils ont déjà exposé. Moi, j'étais super fier. Regardez, cette chaise est allée au Grand Palais, quoi. Hein, Paris, capitale culturelle, là, il n'y avait pas de problème, quoi. Paris, capitale culturelle, ouais. Mais en même temps, c'est peut-être la culture du capital, aussi. Hein. Finalement, la culture à Paris, on se demande des fois si elle ne sert pas à faire miroiter à ceux qui se pensent classe moyenne, hein, qui font partie de la classe dominante, quoi. Et qu'eux ont accès au code. On se demande parfois si la culture, elle n'a pas un rôle pour la bourgeoisie d'enclosure. C'est-à-dire on s'enferme entre nous et on montre que c'est nous qui avons le pouvoir. Moi, je me souviens avec mes filles, parce que je suis aussi maman, j'ai deux filles. Puis il y avait une copine, elle nous avait fait découvrir une comédie musicale. Alors, kitschissime, hein, c'est pas une grande référence. C'est La Mélodie du Bonheur.
Ah, oui.
Vous connaissez, non,
oui,
non. Bon, grosso modo, c'est l'histoire d'une nonne qui s'occupe de plein d'enfants d'un pauvre père veuf autrichien, grand bourgeois. Puis ça se passe pendant l'occupation nazie, puis c'est une belle histoire d'amour. Voilà, c'est... Bon, bref. Donc, ça se jouait au Théâtre du Châtelet. Et alors, bon, il y a quand même des privilèges des lunes, on a des places gratos. Donc, du coup, j'avais réussi à faire venir cette copine fauchée avec ses gosses et les miens, et on va là-bas, et tout ça. Bon. Putain, c'était en VO, quoi. Donc, les enfants comprenaient rien, on leur expliquait, on se faisait engueuler par les autres. Puis, alors, au moment de l'entraque, c'est la pause pipi, on fait la queue avec nos gosses. Puis là, il y a une famille nombreuse avec plein de gamins. On était en plein mois de décembre, donc ça caillait. Et vous savez, ils avaient les grandes chaussettes blanches bien montées comme ça, puis le petit bermuda. Mais ça caillait, ils étaient tous comme ça, avec des belles petites nattes, petites pinces, bien. Et alors, il y a ma petite fille, elle me dit « Maman, eux là, ils montent sur scène après ?» Ben non, ils font pipi comme toi, quoi. Mais maman, pourquoi tu nous as pas dit qu'il fallait se déguiser? Ça, c'est cher, les places au Théâtre du Châtelet. Mais le Théâtre du Châtelet, en ce moment, vous ne pouvez pas y aller, il est fermé, ils m'ont fait des travaux. Et alors, vous savez quoi? C'est Total qui est le mécène des travaux du Théâtre du Châtelet. Eh oui. À Paris, on est engagé pour le climat. Mais grâce à Total, le plus grand pollueur de la planète, enfin, un des 19 plus grands pollueurs de la planète, eh bien, vous direz merci, patron, parce que c'est grâce à Total que les travaux du Théâtre du Châtelet, auquel vous n'irez jamais, seront effectués. C'est beau, la vie, non? Donc, ils vont pouvoir avoir une pub Total sur le Théâtre du Châtelet. Bah ouais, c'est ce mécénat. Vous savez que le mécénat finance beaucoup, de plus en plus, la culture. Mais c'est vous, en fait. Parce que n'importe quel mécène privé, quand il donne de l'argent, eh bien, c'est défalqué de ses impôts, 66%. Eh bien, c'est 66%, c'est qui les hack? Et ouais, et vous avez entendu parler de l'histoire de Jeff Koons?
Ah oui, oui.
Eh ouais, Jeff Koons, il nous fait un cadeau, enfin! Vous n'êtes pas contents, vous râlez? Un grand sculpteur qui offre un cadeau, mais qui n'est pas encore réalisé. Qui va être réalisé par le mécénat. Donc, pour 66%, par vos impôts. Et le gars, il a choisi où il mettait la sculpture. Et je voulais la mettre devant le musée d'art contemporain de la ville de Paris. Pour dire l'art contemporain, c'est moi. Donc le mec, en fait, il s'offre une grosse publicité pour sa gueule, à vos frais, et choisit où. Imagine, c'est comme si toi, tu reçois un cadeau de ta belle-mère, tu reçois un cadeau de ta belle-mère, et te dit, bon, alors tu vas le raquer tous les mois, je choisis où, sur le, au-dessus de ta cheminée, on le met, le cadeau que t'aimes pas. Et en même temps, l'art contemporain, je ne sais pas vous, mais pour moi, j'ai baigné dedans, hein, parce que moi, c'est voilà, j'ai toutes ces sculptures et tout ça. Donc, moi, à la limite, c'était les appartements des autres avec les petits objets en bois et les peintures et le macramé qui m'agressaient, quoi, hein, chacun son truc, quoi. Mais en même temps, quand mes parents, ils écoutaient de la musique contemporaine, la musique abstraite, là, un truc insupportable, déconstruit, là. Moi, je m'enfermais dans la chambre, hein, puis j'écoutais ma radio. Non, ça, la musique contemporaine, je peux pas. Et pourtant, une fois, là, il y a un week-end, les militants, j'étais pas là, moi, les militants m'envoient une photo, ils étaient pleins d'insoumis sur une action militante, donc ils avaient fait une photo foot tous ensemble, c'était chouette, c'était sympa. Je ne connaissais pas toutes les têtes, parce que c'était le 18e et 19e. Puis, deux heures après, on m'envoie un message, il y avait une copine qui avait fait un malaise. Et, très inquiet. Le lendemain, on apprend qu'elle était décédée. J'avais pas eu le temps vraiment de la connaître. Elle s'appelait Marceline Lartigue. Je suis allée à son enterrement. J'ai découvert, il y avait plein de gens de la CGT, Culture, Infocom, puis plein de gens de la danse contemporaine, de la musique contemporaine. Puis quand on est rentré dans la salle du Père-Lachaise pour la cérémonie, il y avait du John Cage, grand auteur de musique contemporaine. Et en fait, dans cette ambiance de recueillement, où, eh ben, la musique pour moi, que j'écoutais, c'était plus du tout la même que celle que j'écoutais
qui m'énervait chez mes parents, quoi. Il y avait une émotion qui faisait que j'y ressentais tout un tas d'autres choses. Alors ça peut vous sembler con, mais parce que j'y connais rien en musique contemporaine, mais des fois, moi j'habite à Télégraphe, c'est le plus grand escalator. Mm-hmm. Des fois, quand je rentre tard et que je suis seule dans ce grand escalator et qu'ils avaient les bruits de la mécanique, je repense toujours à Marceline et à John Cage. En fait, je me dis que ce qui est vraiment important, c'est qu'on soit capable de créer des expériences émotionnelles avec tous les enfants de tous les quartiers, sur tous les différents langages artistiques, musicaux, plastiques, films, autres. C'est ça qui nous émancipe. C'est ça qui fait qu'on se sort de nos déterminismes. C'est pour ça que la culture, c'est important, pour qu'elle ne soit pas en closure, qu'on y ait tous accès par l'émotion. Ben ouais, mais sauf qu'à la ville de Paris, c'est pas toujours ce qu'on fait. Hein. Par exemple, ils ont décrété que dans les quartiers populaires comme la Goutte d'Or, eh bien, puisqu'il y avait une majorité d'Ixites comme ça dans la délibération de personnes de confession musulmane, on allait faire un institut des cultures d'islam. Et ouais, avec une confusion culturelle, et puis une assignation à communauté de résidence. Pourquoi dans ce quartier-là, ils n'auraient pas besoin d'avoir, comme tout le monde, un centre interculturel d'éducation populaire? Pourquoi eux, on les assigne avec une étiquette? C'est vrai ça. La culture du peuple pour tous, ça se construit, ça se soutient. Il y a plein de projets associatifs dans Paris. Il y a plein de gens qui font ça puis qui se préoccupent justement de mixer tout le monde, de mixer les langages, de permettre à tout le monde d'y avoir accès. Moi, je me souviens d'une responsable d'une péniche culturelle, Eva, qui menait cette bataille-là. Elle avait une péniche où elle fait plein d'activités culturelles sur sa péniche, dans le 19e. Et elle me dit, au début, quand on a pu avoir accès aux anneaux, donc j'ai compris que c'est vraiment un droit pour pouvoir mettre votre péniche à quai, quoi, la ville avait exigé, à juste titre, que ce ne soient pas des activités lucratives. Et pour encourager justement pas la marchandisation et des McDo sur la scène, mais qui est d'autres choses, quoi. Sauf que là, austérité oblige, ils avaient inversé. Ils refaisaient une mise en concurrence, un appel à projet entre les différents projets de péniche, avec, dans les conditions de l'appel à projet, le fait qu'il y ait des recettes qui soient redistribuées en dividende à la ville pour les péniches. Elle a perdu l'appel à projet. On a réussi à se battre, à se mobiliser, donc elle a dû quitter Paris, sa péniche est garée sur un anneau plus loin dans un autre quartier. Mais vous voyez la logique. En fait, moi, je me dis que souvent, parce qu'il y a d'autres copains eux qui ont gagné les projets. Finalement, la ville de Paris, ils aiment bien Brassens. Mais c'est plutôt les copains d'abord. Allez. Mais La République en marche, on est sauvés avec eux sur la culture. Parce qu'ils proposent le pass culture. Vous avez entendu parler du pass culture? Un chèque de 500 euros pour tous les jeunes qui arrivent à 18 ans, pour qu'ils puissent avoir accès à la culture. Ben ouais, la culture, c'est un produit comme un autre, non? Non? Et ouais, c'est degré zéro de la marchandisation de la culture. Ouais. Alors moi, là-dessus, je me dis que il faut peut-être se réapproprier Hannah Arendt. Alors, Hannah Arendt, c'est costaud. J'ai d'abord lu plein de résumés sur elle, avant d'assumer de le lire. Mais Hannah Arendt et la crise de la culture. En fait, Hannah Arendt, elle explique que, elle analyse que la disparition de la culture au profit de la culture de loisirs, et donc cette logique consumériste, quoi, qu'on voit bien dans chaque culture, eh bien, le problème de la culture de masse telle qu'elle est vécue comme ça, c'est qu'elle induit une consommation de loisirs et les citoyens devenant d'abord des consommateurs sont incapables d'un jugement désintéressé sur l'œuvre d'art. Elle, pour elle, le plus problématique, c'est surtout ceux qui font de la culture un moyen de distinction sociale, mais elle dit aussi cela que je trouve fort, en transformant la valeur émotionnelle en valeur d'échange, au sens échange pépette, la culture perd son pouvoir initial de nous émouvoir. Et là, cette phrase, vous m'en faites trois copies doubles. La philosophie grecque a posé le questionnement du monde et la société productiviste moderne nous prive de l'enchantement face au monde. Alors moi, je me dis que je vais rebosser Hannah Arendt, la crise de la culture. Puis c'est une femme, hein, faut se battre. J'ai réussi sur les quatre auteurs à donner deux noms d'hommes, deux noms de femmes. C'est important pour moi. Alors est-ce qu'on se réapproprie Hannah Arendt?
Oui.
Une fois, deux fois, trois fois, allez, réapproprier. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient grand. Bien, non? Ah!
Jeunes,
ils font les cons, le bourgeois il est vénère, puis à la fin ils deviennent vieux, ils deviennent gros, et sont vénères des petits jeunes. Ben faut qu'on cogite à ça. Parce que nous tous ici, hein, on veut une ville populaire, et puis on est peut-être aussi des gentrificateurs. Inconsciemment. Donc on est tous aussi avec plein de contradictions. Hein. Donc il faut cogiter à cela. Alors c'est à la fois pour cogiter à cela que j'ai fait cette con gesticulée. À la fois parce que j'avais envie
de
vous montrer ça. Oui. La petite fille qui reste toujours passionnée par ce que font ses parents. Et c'est important pour moi de raconter les combats des parents. Parce que je pense qu'ils m'ont construit ces combats, ces engagements. Même si chacun après fait son chemin. Et puis parce que aussi, toutes ces luttes, et ça a été terrible d'en sélectionner, j'aurais aimé vous en raconter plein d'autres. Les Brahim. Le papy de la part fissurée, Mohamed, celui de Vélib, Sarah de la Chapelle, Marie-Thérèse du TEP, Chloé des colonies de vacances, Sabine, que je n'ai pas connue, Erika de Stop Monop, Marceline, Eva, et bien d'autres. D'ailleurs, vous avez vu, il y a plein de femmes.
Les femmes, elles sont souvent du quotidien.
Il n'y a pas une révolution au monde qui s'est faite sans les femmes. Il va bien falloir un jour qu'on reconnaisse cette place centrale, comme au Rojava d'ailleurs. Enfin voilà, je pense vraiment qu'on peut fédérer nos colères, fédérer nos luttes, et que toutes et tous ici, vous avez des raisons de colère, vous êtes peut-être déjà dans des combats, dans des luttes, donc il faut qu'on réfléchisse à les mettre en commun, quoi. Et que l'enjeu des municipales, à Paris comme ailleurs, dans toutes les villes, c'est ça. Si on ne veut pas que ce soit les commissaires priseurs qui gagnent la partie une fois de plus. Il faut qu'on s'y mette. Et si des fois dans une micro-lutte c'est possible, peut-être qu'à une plus grande échelle on devrait pouvoir aussi un jour, non? Vous en doutez? Oui, mais ça rentre dans le manche et le jour finiront égal à manche quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Merci à vous.